Chapitre 6. Wilhelm avait passé l'après-midi dans l'inquiétude et trouvé le temps assez long. Vers le soir, sa porte s'ouvrit et un jeune et joli chasseur entra en lui faisant un salut. « Allons-nous promener ?» dit le jeune homme. Et aussitôt Wilhelm reconnut Thérèse à ses beaux yeux. « Excusez cette mascarade, » poursuivit-elle. Car hélas, ce n'est à présent qu'une mascarade. Mais comme je dois vous parler du temps où je me trouvais si bien dans ce monde, j'ai voulu, par tous les moyens, me rendre présent ces beaux jours. Venez, la place même où nous nous reposâmes si souvent de nos chasses et de nos promenades doit y concourir. » Ils partirent, et en chemin, Thérèse dit à son compagnon, « Il n'est pas juste que vous me laissiez seul parler. « Déjà, vous en savez assez sur mon compte, et je ne sais pas encore la moindre chose de vous. Faites-moi quelques confidences, afin que je prenne le courage de vous exposer ma vie et mon histoire. »« Hélas, » répondit Wilhelm, « je n'ai rien à raconter qu'une suite d'erreurs, d'égarements, et je ne sache personne à qui je voudrais cacher plus qu'à vous les désordres dans lesquels je me suis trouvé et me trouve encore. » Votre regard et tout ce qui vous entoure, votre caractère et votre conduite, me montrent que vous pouvez jouir de votre vie passée, que vous avez suivi avec constance une route belle et pure, que vous n'avez point perdu de temps, que vous n'avez aucun reproche à vous faire. Thérèse sourit et répliqua, « Il faut savoir si vous penserez encore ainsi quand vous aurez entendu mon histoire. » Ils cheminaient toujours, et parmi quelques réflexions générales, Thérèse dit à Wilhelm, « Êtes-vous libre ?»«
Je crois l'être, » répondit-il, « mais ne le désire pas. »«
Fort bien, » dit-elle, « cela nous annonce un roman compliqué, et me montre que vous aurez aussi bien des choses à me dire. » En parlant ainsi, ils montèrent la colline et s'assirent sous un grand chêne qui répandait un vaste ombrage. « Ici, » dit-elle, « sous l'arbre de son pays, une jeune Allemande vous fera son histoire. Écoutez-moi avec patience. » Mon père était un riche gentilhomme de cette province. C'était un homme agréable, intelligent, actif, laborieux, tendre père, loyal ami, hôte excellent, à qui je n'ai connu qu'un défaut. C'était une excessive indulgence pour sa femme, qui ne savait pas l'apprécier. C'est avec regret que je dois parler ainsi de ma mère. Son caractère différait absolument de celui de son mari. Elle était brusque et volage, sans amour pour sa maison et pour moi, son unique enfant. Elle était prodigue, mais belle, spirituelle, pleine de talent, les délices d'un cercle d'amis qu'elle savait rassembler autour d'elle. À vrai dire, sa société n'était pas nombreuse, ou ne le fut pas longtemps. On n'y voyait guère que des hommes, car aucune femme ne se trouvait bien auprès d'elle, et ma mère pouvait moins encore souffrir le mérite d'une femme. Je ressemblais à mon père par la figure et les inclinations. Comme les petits canetons cherchent l'eau en sortant de la coquille, je me trouvais, dès mon enfance, dans la cuisine, l'office, les granges et les greniers, comme dans mon élément. L'ordre et la propreté de la maison, même dans le temps des jeux de mon premier âge, semblaient être mon unique instinct, mon unique objet. Mon père s'en applaudit, et il fournit par degrés à mon ardeur enfantine les occupations convenables. En revanche, ma mère ne m'aimait pas et ne s'en cachait pas un moment. Je grandissais et avec les années croissait mon activité et l'amour de mon père. Lorsque nous étions seuls, que nous allions aux champs, que je l'aidais à régler les comptes, je pouvais m'apercevoir combien il était heureux. Quand mes yeux se fixaient sur les siens, c'était comme si j'eusse regardé en moi-même, car c'était surtout par les yeux que je lui ressemblais parfaitement. Mais il ne conservait ni la même assurance, ni la même expression en présence de ma mère.
Il m'excusait doucement quand elle m'adressait de violents et injustes reproches. Il prenait mon parti, non comme étant capable de me protéger, mais seulement d'excuser mes bonnes qualités. Il ne s'opposait non plus à aucun de ses penchants. Elle se prit d'une grande passion pour le spectacle. Un théâtre fut construit. On ne manqua pas d'hommes, de tout âge et de toute figure, qui se produisirent sur la scène avec elle. Mais on manquait souvent de femmes. Lydie, agréable jeune fille, qu'on élevait avec moi, et qui, dès son âge le plus tendre, promettait d'être belle, dut jouer les secondes amoureuses, et une vieille femme de chambre, les mères et les tantes. Ma mère se réserva les premières amoureuses, les héroïnes et les bergères de toute espèce. Je ne puis vous dire combien je trouvais ridicules ces personnes que je connaissais toutes si bien lorsqu'elles s'étaient déguisées et se montraient là-haut, et voulaient qu'on les prît pour autre chose que ce qu'elles étaient réellement. Je ne voyais jamais que ma mère et Lydie et le baron ou le secrétaire un tel, qu'ils se présentassent comme princes et comtes ou comme paysans. Et je ne pouvais comprendre qu'ils voulussent me persuader qu'ils étaient heureux ou malheureux, amoureux ou indifférents, avares ou généreux, moi qui, le plus souvent, savais parfaitement le contraire. Aussi ne restais-je presque jamais parmi les spectateurs. Je mouchais les chandelles pour faire quelque chose, je m'occupais du souper, et le lendemain, tandis que tous ces gens dormaient encore, je mettais en ordre leur garde-robe, que d'ordinaire ils laissaient, le soir, sans dessus-dessous. Cette activité semblait fort convenir à ma mère, mais je ne pouvais gagner son affection. Elle me méprisait, et je sais fort bien qu'elle répéta plus d'une fois avec amertume « Si la mère pouvait être incertaine comme le père, on aurait de la peine à croire que cette servante fut ma fille. » J'avoue que sa conduite finit par m'éloigner d'elle tout à fait. Je considérais ses actions comme celles d'une personne étrangère, et comme j'étais accoutumée à observer d'un œil d'aigle les valets, car, pour le dire en passant, cette surveillance est la base de l'économie domestique, j'observais aussi les rapports de ma mère avec sa société. Il était facile de remarquer qu'elle ne voyait pas tous les hommes avec les mêmes yeux. Mon attention redoubla, et j'observai bientôt que Lydie était sa confidente, et à cette occasion, apprenait elle-même à mieux connaître une passion qu'elle avait si souvent jouée dès sa première jeunesse. Je savais tous leurs rendez-vous. Je me taisais néanmoins, et ne disais rien à mon père que je craignais d'affliger. Mais enfin, j'y fus obligée. Il y avait bien des choses qu'ils ne pouvaient risquer sans corrompre les domestiques. Ceux-ci commencèrent à me braver, à négliger les ordres de mon père, à mépriser les miens. La confusion qui s'ensuivit m'était insupportable. Je signalai, je dénonçai tout à mon père. Il m'écouta d'un air calme et me répondit avec un sourire « Ma chère enfant, je sais tout. Sois tranquille. » Souffre ces choses avec patience, car c'est seulement pour l'amour de toi que je les souffre. Je n'étais pas tranquille, je n'avais pas de patience. Je blâmais mon père en secret, ne croyant pas que, pour un motif quelconque, il dût rien souffrir de pareil. Je persistais à demander le maintien de l'ordre, et j'avais résolu de pousser les choses à l'extrémité. Ma mère était riche, mais sa dépense était excessive, et cela donna lieu, comme je pus m'en apercevoir, à maintes explications entre mes parents. Il ne fut longtemps porté aucun remède à la chose, mais enfin les passions de ma mère amenèrent une sorte de solution. Son premier amoureux l'ayant quitté avec éclat, sa maison, son pays, sa société lui furent à charge. Elle s'établit dans un autre domaine, mais elle s'y trouva trop isolée. Elle se rendit à la ville, elle n'y faisait pas une assez belle figure. Je ne sais tout ce qui se passa entre elle et mon père. Quoi qu'il en soit, il consentit, sous des conditions qui me sont restées inconnues, à ce qu'elle fît un voyage dans le midi de la France. Nous étions libres et nous vécûmes comme dans un paradis. Je crois même que mon père n'y perdit rien. Et cependant, il se délivra d'elle au prix d'une somme considérable. Tous les domestiques inutiles furent congédiés, et d'heureux succès semblèrent favoriser nos réformes. Nous passâmes quelques bonnes années. Tout allait au gré de nos souhaits. Mais, hélas, ce bonheur ne fut pas de longue durée. Mon père fut soudainement frappé d'une attaque d'apoplexie qui lui paralysa le côté droit et gêna l'usage de la parole. Il fallait deviner tout ce qu'il désirait, parce qu'il ne prononçait pas le mot qu'il avait dans l'esprit. J'eus alors bien des moments pénibles, dans lesquels il faisait entendre expressément qu'il voulait être seul avec moi. Il faisait des gestes violents pour écarter tout le monde, et quand nous étions seuls, il ne pouvait articuler ce qu'il avait à dire. Son impatience devenait extrême, et son état m'affligeait jusqu'au fond du cœur. Évidemment, il avait à me révéler un secret qui m'intéressait particulièrement. Quel n'était pas mon désir de le connaître? Auparavant, je pouvais tout lire dans ses yeux, mais à présent, c'était chose impossible. Ses yeux même ne parlaient plus. Je comprenais seulement qu'il ne voulait rien, ne demandait rien. Tous ses efforts tendaient à me révéler quelque chose que, par malheur, je ne pus apprendre. Il eut une seconde attaque, il devint bientôt absolument infirme, et peu de temps après, il mourut. Je ne sais pourquoi, je m'étais persuadée qu'il avait caché quelque part un trésor, qu'il aimait mieux me laisser qu'à ma mère. Je fis des recherches de son vivant, mais je ne trouvai rien. Après sa mort, tout fut mis sous scellé. J'écrivis à ma mère, et je lui offris de rester dans la maison comme intendante. Elle refusa, et je dus quitter la place. On produisit un testament mutuel, par lequel elle était mise en possession et en jouissance de tout. Et moi, je demeurai sous sa dépendance tout le temps de sa vie. C'est alors que je crus comprendre les signes de mon père. Je le plaignis d'avoir été assez faible pour être injuste envers moi, même après sa mort. Au dire de quelques-uns de mes amis, cela ne valait guère mieux que s'il m'avait déshérité, et il me pressait d'attaquer le testament, à quoi je ne pus me résoudre. Je me confiais dans la fortune, je me confiais en moi-même. J'avais toujours vécu en grande amitié avec une dame du voisinage qui possédait des biens considérables. Elle m'accueillit avec plaisir et je fus bientôt à la tête de sa maison. Elle avait une existence très régulière, elle aimait l'ordre en toutes choses et je la secondais fidèlement dans ses luttes avec son intendant et ses valets. Je ne suis ni avare ni malveillante, mais nous autres femmes, nous tenons beaucoup plus sévèrement que les hommes eux-mêmes à ce que rien ne soit gaspillé. Toute infidélité nous est insupportable. Nous voulons que chacun jouisse de ce qui lui revient et s'en tienne là. Je me retrouvai dans mon élément. Je pleurais dans la retraite la mort de mon père. Ma protectrice était contente de moi, mais une petite circonstance troubla mon repos. Lydie était revenue. Ma mère fut assez cruelle pour repousser cette pauvre fille après l'avoir entièrement perdue. Elle avait appris chez ma mère à prendre ses passions pour règle. Elle était accoutumée à ne se modérer en rien. Quand elle reparut à l'improviste, ma bienfaitrice la recueillit aussi. Lydie voulut me seconder et ne put se mettre à rien. Vers ce temps-là, les parents et les futurs héritiers de ma noble amie venaient souvent chez elle et se livraient au plaisir de la chasse. Lothaire les accompagnait quelquefois. Je remarquai bientôt comme il était supérieur à tous les autres, sans faire cependant le moindre retour sur moi-même. Il était affable avec tout le monde et Lydie parut bientôt fixer son attention. J'étais sans cesse occupée et me mêlais peu à la société. En présence de Lothaire, je parlais moins que de coutume. Et pourtant, je dois convenir qu'une conversation animée fut de tout temps pour moi l'assaisonnement de la vie. J'aimais à parler avec mon père sur tous les sujets qui se présentaient. Ce qu'on n'exprime pas, on ne le conçoit pas nettement. Je n'avais jamais entendu personne avec plus de plaisir que Lothair lorsqu'il racontait ses voyages et ses campagnes. Il voyait devant lui le monde d'un coup d'œil aussi sûr que je voyais les domaines dont j'avais l'administration. Ce n'étaient point les accidents bizarres d'un aventurier, les exagérations et les demi-vérités d'un voyageur à vues étroites, qui produit toujours sa personne à la place du pays dont il promet de nous faire le tableau. Il ne racontait pas, il nous conduisait sur les lieux mêmes. J'ai rarement goûté un plaisir aussi pur. Mais ma satisfaction fut inexprimable un soir que je l'entendis parler des femmes. La conversation s'engagea d'une manière toute naturelle. Quelques dames du voisinage étaient venues nous voir et avaient tenu les propos ordinaires sur l'éducation des femmes. « On est injuste envers notre sexe, » disait-elle. « Les hommes veulent réserver pour eux toute instruction supérieure. On ne veut nous faire part d'aucune science. On veut nous réduire à n'être que des poupées ou des ménagères. » À tout cela, Lothair répondit d'abord peu de choses, mais quand le cercle fut réduit, il dit ouvertement ce qu'il pensait. « C'est une chose étrange, dit-il, qu'on nous fasse un crime de vouloir élever la femme à la plus haute place qu'elle soit capable d'occuper. En est-il de plus élevé que le gouvernement de la maison ? Tandis que l'homme se livre avec tourment aux affaires du dehors, qu'il doit acquérir et conserver le bien, qu'il prend part même à l'administration de l'État, qu'il est partout esclave des circonstances, et, je pourrais dire, ne gouverne rien, alors qu'il croit gouverner, qu'il se voit forcé d'être toujours politique quand il voudrait être raisonnable, dissimulé, au lieu d'être ouvert, faux au lieu d'être sincère, tandis qu'en poursuivant un but qu'il n'atteint jamais, il renonce au résultat le plus beau, savoir d'être en harmonie avec soi-même. Une sage ménagère règne véritablement dans la maison et développe dans une famille entière le plaisir et l'activité. Est-il pour la créature humaine un plus grand bonheur que d'accomplir ce que nous savons être juste et bon, de nous sentir maîtres des moyens d'atteindre notre but? Et nos intérêts les plus proches, où doivent-ils, où peuvent-ils être, si ce n'est dans l'intérieur de la maison? Tous les besoins indispensables et toujours renaissants, où faut-il les attendre et les chercher, si ce n'est sous le toit où l'on se couche et l'on se lève, où la cuisine et la cave et toutes sortes de provisions doivent être toujours prêtes pour nous et pour les nôtres? Quelle activité régulière n'est pas nécessaire pour imprimer à cet ordre, sans cesse renaissant, une marche animée, invariable? Qu'ils sont en petit nombre, les hommes auxquels il est donné de revenir régulièrement, comme un astre, et de présider au jour comme à la nuit, de se former d'utiles instruments, de planter et de semer, de conserver et de dépenser, et de parcourir constamment ce cercle avec calme, avec amour et sagesse. C'est lorsqu'une fois la femme s'est chargée de ce gouvernement intérieur, qu'elle rend maître chez lui le mari qu'elle aime. Elle acquiert par son attention toutes les connaissances, et par son activité, elle sait les mettre à profit. Elle ne dépend de personne, et procure à son mari la véritable indépendance, celle du foyer domestique. Ce qu'il possède, il le voit bien gardé. Ce qu'il acquiert, bien employé. Et par là, il peut tourner sa pensée vers de grands objets. Et si la fortune le favorise, il peut être pour l'État ce que sa femme est si bien pour sa maison. » Là-dessus, Lothair fit le portrait de la femme qu'il voudrait pour lui. Je rougis, car c'était ma fidèle image. Je jouis en silence de mon triomphe, d'autant plus que je vis bien, à toutes les circonstances, qu'il ne m'avait point en vue, qu'au fond il ne me connaissait point. Je ne me souviens pas d'avoir éprouvé de ma vie une impression plus agréable qu'en voyant un homme que j'estimais tant, donner la préférence, non pas à ma personne, mais à mon caractère et à mes qualités. Quelle récompense pour moi! Quel encouragement! Quand la compagnie se fut retirée, ma respectable amie me dit en souriant « C'est dommage que les hommes ne mettent pas souvent à exécution leurs pensées et leurs paroles. Sans cela, nous aurions trouvé un excellent parti pour ma chère Thérèse. » Je répondis en badinant qu'à la vérité, la raison des hommes cherchait de bonnes ménagères, mais que leur cœur et leur imagination désiraient d'autres qualités, et que nous autres ménagères, nous ne pouvions aucunement lutter contre d'aimables et charmantes jeunes filles. Ces derniers mots s'adressaient à Lydie, car elle ne cachait point que Lothaire avait fait sur elle une grande impression, et à chaque nouvelle visite, il paraissait plus occupé d'elle. Elle n'avait ni bien ni naissance. Elle ne pouvait espérer de devenir sa femme, mais elle ne pouvait résister au plaisir d'inspirer et de sentir l'amour. Je n'avais jamais aimé, et je n'aimais pas encore. Mais bien qu'il me fût infiniment agréable de voir l'estime que faisait de mon caractère un homme si respecté, je dois avouer que cela ne suffisait pas pour me satisfaire. Je souhaitais maintenant qu'il pût apprendre à me connaître et s'intéresser à ma personne. Je formais ce vœu, sans arrêter ma pensée aux conséquences qui pouvaient en résulter. Le plus grand service que je rendais à ma bienfaitrice était de régler l'exploitation de ces belles forêts. Ces précieuses possessions, dont le temps et les circonstances augmentent toujours la valeur, avaient été malheureusement administrées avec l'ancienne routine. Aucun plan, aucune méthode. Les vols et les malversations n'avaient point de fin. Plusieurs montagnes étaient dépouillées et les plus anciennes coupes étaient seules de même croissance. Je vis tout par mes yeux avec un homme habile. Je fis arpenter les forêts, je fis couper, semer, planter et en peu de temps, tout fut organisé. Pour monter plus aisément à cheval et pour n'être gêné nulle part quand je serais à pied, je portais des habits d'homme. J'étais dans beaucoup de lieux à la fois, et l'on me craignait partout. J'appris que Lothaire et ses jeunes amis avaient arrangé une partie de chasse. Pour la première fois de ma vie, l'idée me vint de paraître, ou, pour ne pas me faire tort, d'être, aux yeux de cet homme distingué, ce que j'étais en effet. Je pris mes habits d'homme, et, un fusil sur l'épaule, je sortis avec notre chasseur pour attendre la compagnie sur nos limites. Elle parut. Lothaire ne me reconnut pas d'abord. Un des neveux de ma bienfaitrice me présenta à lui comme un homme versé dans la science forestière. Il plaisanta sur ma jeunesse et continua de faire mon éloge, jusqu'à ce qu'enfin Lothaire me reconnut. Le neveu seconda mes vues, comme si nous eussions été d'accord ensemble. Il raconta avec détail et en exprimant sa reconnaissance ce que j'avais fait pour les domaines de sa tante et par conséquent pour lui-même. Lothaire l'écouta attentivement. Il s'entretint avec moi, me fit des questions sur tout ce qui avait rapport au domaine et je fus heureuse de pouvoir étaler devant lui mes connaissances. Je soutins fort bien cet examen. Je lui soumis quelques projets d'amélioration. Il les approuva, me cita des exemples pareils et fortifia mes raisons par l'enchaînement qu'il leur donna. J'étais toujours plus satisfaite. Mais heureusement toute mon envie était d'être connue et je ne désirais pas d'être aimée. Car lorsque nous revînmes à la maison, je remarquai, plus qu'auparavant, que ses attentions pour Lydie semblaient trahir une inclination secrète. J'avais atteint mon but, et pourtant je n'étais pas tranquille. Dès ce jour, Lothaire me témoigna une véritable estime et une noble confiance. Quand la société était réunie, c'était d'ordinaire avec moi qu'il s'entretenait. Il me demandait mes avis, et il me montrait, surtout pour les affaires de ménage, une aussi grande confiance que si je n'avais rien ignoré. Ces encouragements me donnèrent une ardeur extraordinaire. Il voulait savoir mon opinion, même dans les questions d'économie générale et de finances. Et en son absence, je cherchais à étendre mes connaissances sur la province et même le pays tout entier. Cela me fut aisé, car je n'y trouvais que la répétition en grand des choses que je savais parfaitement en petit. Depuis cette époque, ces visites furent plus fréquentes. Nous parlions de tout, je puis bien le dire. Cependant, nos entretiens roulaient d'ordinaire sur la science économique, mais non dans le sens rigoureux de ce mot. Il était souvent question des résultats merveilleux auxquels l'homme peut arriver, même avec des moyens faibles en apparence, par l'emploi conséquent de ses forces, de son temps et de son argent. Je ne résistais pas aux penchants qui m'attiraient vers l'auteur. Je ne sentis, hélas, que trop tôt combien mon amour était vif et tendre, pur et sincère, et cependant, je croyais remarquer toujours davantage que ces fréquentes visites étaient pour Lydie et non pour moi. Lydie, du moins, en était parfaitement convaincue. Elle me prit pour sa confidente, et cela contribua quelque peu à me tranquilliser. Ce qu'elle expliquait si fort à son avantage ne me paraissait nullement significatif. Je n'y voyais aucune trace de vue sérieuse et d'une liaison durable. Mais je voyais d'autant plus clairement que cette jeune fille passionnée voulait à tout prix lui appartenir. Les choses en étaient là lorsqu'un jour, ma bienfaitrice me fit soudain une proposition inattendue. « Lothaire, me dit-elle, vous offre sa main et désire que vous soyez la compagne de sa vie. » Elle s'étendit sur mes qualités et me dit, ce que j'avais tant de plaisir à entendre, que Lothaire était persuadé d'avoir trouvé en moi la personne qu'il avait longtemps désirée. J'étais au comble du bonheur. J'étais recherchée par un homme que j'estimais parfaitement. Chez lui et avec lui, j'allais donner un essor complet, libre, utile et vaste à mon inclination naturelle, à mes talents acquis par l'exercice. Je donnai mon consentement. Il vint lui-même. Il me parla sans témoin, me tendit la main, fixa ses regards sur les miens, me prit dans ses bras et cueillit un baiser sur mes lèvres. Ce fut le premier et le dernier. Il me mit dans le secret de toutes ses affaires, me dit ce que lui avait coûté sa campagne d'Amérique, de quelles dettes il avait grevé ses terres, qu'il s'était là-dessus brouillé en quelque sorte avec son grand-oncle, comment cet excellent homme songeait aux intérêts de son petit-neveu, mais à sa manière, qu'il voulait lui faire épouser une femme riche, tandis qu'un homme sage ne peut s'accommoder que d'une bonne ménagère. Il espérait persuader le vieillard par l'entremise de sa sœur. Lothaire m'exposa l'état de sa fortune, ses plans, ses vues, et me demanda mon concours. Mais nous convînmes de tenir notre engagement secret, en attendant le consentement de son oncle. À peine se fut-il éloigné que Lydie me demanda s'il ne m'avait point parlé d'elle. Je répondis que non, et l'ennuyai de détails d'économie rurale. Elle était inquiète, chagrine, et la conduite de Lothaire, lorsqu'il revint au château, ne la rendit pas plus tranquille. Mais je vois que le soleil est sur son déclin. C'est heureux pour vous, mon ami. Sans cela, vous auriez dû entendre, dans ces plus petits détails, l'histoire que je me raconte si volontiers à moi-même. Hâtons-nous, nous approchons d'une époque où il n'est pas bon de s'arrêter. Lothaire me fit connaître son excellente sœur, qui sut m'introduire adroitement auprès de l'oncle. Je gagnai le vieillard, il consentit à notre union, et je retournai, avec cette heureuse nouvelle, chez ma bienfaitrice. La chose n'était plus un secret dans la maison. Lydie l'apprit et ne pouvait y croire. Lorsqu'il ne lui fut plus possible d'en douter, elle disparut tout à coup, et l'on ne sut ce qu'elle était devenue. Le jour de notre mariage approchait. J'avais souvent demandé à Lothaire son portrait, et comme il allait partir à cheval, je lui rappelai sa promesse. Vous avez oublié, dit-il, de me donner le médaillon où vous désirez qu'il soit placé. Ce médaillon que j'avais reçu en cadeau d'une amie était pour moi d'un grand prix. Sous le verre extérieur était son chiffre formé de ses cheveux. Intérieurement se trouvait une plaque d'ivoire sur laquelle devait être peint son portrait, quand elle me fut ravie par une mort funeste. L'amour de Lothaire me rappelait vers le bonheur, dans le temps où la perte de cet ami m'était encore très douloureuse, et je désirais remplir avec le portrait de mon fiancé la place laissée vide dans le cadeau de mon ami. Je cours à ma chambre, je prends la cassette où je renfermais mes bijoux et je l'ouvre en présence de Lothaire. À peine a-t-il jeté les yeux dans l'intérieur qu'il voit un médaillon avec un portrait de femme. Il le prend, le considère avec attention et me dit vivement « Quel est ce portrait ?»«
Celui de ma mère. »
« J'aurais juré, s'écria-t-il, que c'était celui d'une dame de Saint-Alban que je rencontrai en Suisse il y a quelques années.
« C'est la même personne, répliquai-je en souriant, et vous avez fait, sans le savoir, la connaissance de votre belle-mère. Saint-Alban est le nom romanesque sous lequel ma mère voyage. Elle le porte encore en France où elle se trouve maintenant.
« Je suis le plus malheureux des hommes !» s'écria-t-il en rejetant le portrait dans la boîte, et portant sa main sur ses yeux, il sortit de la chambre aussitôt. Il s'élança sur son cheval. Je courus au balcon et je le rappelai. Il se retourna. Il me dit adieu de la main et il s'éloigna au galop. Je ne l'ai pas revu. Le soleil allait disparaître. Thérèse regardait fixement le ciel embrasé et ses beaux yeux se remplirent de larmes. Elle gardait le silence et posa ses mains sur celles de son nouvel ami. Il les baisa avec une tendre pitié. Thérèse essuya ses pleurs et se leva. « Retournons, dit-elle, prendre soin de nos gens. » Pendant le retour, la conversation ne fut pas animée. Ils arrivèrent à la porte du jardin et aperçurent Lydie assise sur un banc. Elle se leva et, pour les éviter, elle se retira dans la maison. Elle tenait un papier à la main et deux petites filles étaient auprès d'elle. « Je vois, dit Thérèse, qu'elle porte toujours avec elle son unique consolation, la lettre de Lothaire. Son amant lui promet qu'aussitôt qu'il sera guéri, elle retournera vivre auprès de lui. Il la prie en attendant de demeurer tranquille chez moi. Elle s'attache à ses mots, se console avec ses lignes, mais les amis de Lothaire sont mal notés chez elle. » Les deux enfants s'étaient approchés. Ils saluèrent Thérèse et lui rendirent compte de tout ce qui s'était passé au logis en son absence. « Vous voyez là encore une partie de mes occupations, dit Thérèse. J'ai fait une association avec l'excellente sœur de Lothaire. Nous élevons en commun un certain nombre de jeunes filles. Je forme les vives et diligentes ménagères, et elles se chargent de celles qui montrent des goûts plus tranquilles et plus délicats, car il est convenable de pourvoir de toute manière au bien des hommes et du ménage. Quand vous ferez la connaissance de ma noble amie, vous commencerez une vie nouvelle. » Sa beauté, sa bonté la rendent digne des hommages du monde entier. Wilhelm n'osa dire, hélas, qu'il connaissait déjà la belle comtesse et que ses relations passagères avec elle seraient pour lui la source de regrets éternels. Heureusement, Thérèse ne poursuivit pas la conversation. Ses affaires l'obligèrent à rentrer dans la maison. Il se trouvait seul, et ce qu'il venait d'apprendre, que la belle comtesse était aussi forcée de se consoler par la bienfaisance du bonheur qu'elle avait perdu, lui causait une extrême tristesse. Il sentait que chez elle, ce n'était qu'un besoin de se distraire et de substituer aux jouissances de la vie l'espérance de la félicité d'autrui. Il admirait le bonheur de Thérèse, qui, même après ce triste et soudain changement, n'avait pas besoin de rien changer en elle. « Heureux par-dessus tout, se disait-il. celui qui, pour se mettre en harmonie avec la fortune, n'est pas réduit à rejeter toute sa vie passée. » Bientôt Thérèse revint et lui demanda pardon de le déranger encore. « Toute ma bibliothèque est dans cette armoire, » lui dit-elle. « Ce sont plutôt des livres que je laisse vivre qu'une collection soignée. » Lydie demande un livre de piété. Il s'en trouvera bien deux ou trois dans le nombre. Les gens qui sont mondains toute l'année se figurent qu'ils doivent être dévots dans l'affliction. Ils considèrent tout ce qui est bon et moral comme une médecine que l'on prend avec répugnance quand on se trouve indisposé. Ils ne voient dans un écrivain religieux, dans un moraliste, qu'un médecin qu'on ne saurait mettre assez vite à la porte. Pour moi, je l'avoue, je me représente la morale comme un régime qui ne mérite ce nom qu'autant que je le prends pour règle de vie et ne le perds pas de vue de toute l'année. » Ils fouillèrent parmi les volumes et trouvèrent quelques-uns de ces livres qu'on nomme des ouvrages d'édification. « C'est de ma mère, dit Thérèse, que Lydie a pris l'usage de recourir à ses lectures. Elle se nourrissait de romans et de comédies, tant que l'amant était fidèle. S'éloignait-il, aussitôt ses ouvrages reprenaient faveur. « Je ne puis comprendre, poursuivit-elle, comment on a pu croire que Dieu nous parle par des livres et des histoires. Si l'univers ne nous révèle pas immédiatement ses rapports avec nous, si notre cœur ne nous dit pas ce que nous devons à nous-mêmes et aux autres, nous aurons de la peine à l'apprendre dans les livres, qui ne sont propres qu'à donner des noms à nos erreurs. » Thérèse laissa Wilhelm seul, et il employa la soirée à faire la revue de la petite bibliothèque. Ce n'étaient en effet que des volumes rassemblés au hasard. Pendant les quelques jours qu'il passa chez elle, Thérèse se montra toujours égale à elle-même. Elle lui raconta, avec de grands détails et à différentes reprises, la suite de son histoire. Les jours et les heures, les lieux et les discours étaient présents à sa mémoire. Nous allons rapporter, en abrégé, ce qu'il est nécessaire de faire connaître à nos lecteurs. La cause du brusque départ de Lothair ne se devine que trop aisément. Il avait rencontré la mère de Thérèse dans ses voyages, elle l'avait captivée par ses charmes, elle n'avait pas été avare de ses faveurs, et cette malheureuse intrigue d'un moment l'éloignait d'une femme que la nature semblait avoir formée pour lui. Thérèse se renferma dans le cercle de ses travaux et de ses devoirs. On apprit que Lydie s'était arrêtée secrètement dans le voisinage. Cette rupture, dont elle ne connaissait pas la cause, la remplit de joie. Elle se rapprocha de Lothair, et s'il répondit à ses avances, il semble que ce fut plutôt par désespoir que par amour, par surprise que par réflexion, par le besoin de se distraire que par un dessein médité. Cela ne troubla point le repos de Thérèse. Elle n'avait plus aucune prétention sur Lothair. Et même, eût-il été son mari, elle aurait eu peut-être le courage de souffrir une liaison pareille, pourvu que l'ordre intérieur de la maison n'en fût pas troublé. Du moins, elle disait souvent qu'une femme qui gouverne bien son ménage peut passer à son mari tous ses petits caprices et compter qu'il lui reviendra toujours. La mère de Thérèse eut bientôt dérangé sa fortune, et sa fille en souffrit, car elle en reçut peu de secours. La vieille dame mourut et lui légua le petit domaine et un joli capital. Thérèse sut d'abord s'accommoder à sa modeste situation. Lothair lui offrit, par l'entremise de Jarno, une propriété de plus grande valeur. Elle la refusa. « Je veux, dit-elle, montrer dans cette petite administration que j'étais digne de partager la grande avec lui. Mais si, par l'effet des circonstances, je me trouve dans l'embarras pour moi ou pour les miens, je me propose de recourir tout d'abord et sans scrupule à mon noble ami. » Rien ne reste moins caché et sans emploi qu'une sage activité. À peine Thérèse se fut-elle établie dans son petit bien, que les gens d'alentour recherchèrent sa connaissance et ses avis.
et le nouveau propriétaire du domaine voisin lui fit entendre assez clairement qu'il ne tenait qu'à elle de recevoir sa main et la plus grande partie de son héritage. Elle avait rapporté ce détail à Wilhelm et plaisantait quelquefois avec lui sur les mariages bien ou mal assortis. « Rien ne fait tant causer le monde, disait-elle, que la nouvelle d'un mariage, qu'à sa manière de voir, il peut nommer un mariage mal assorti. Et pourtant, ceux de cette espèce sont beaucoup plus fréquents que les autres. Car, hélas, au bout de peu de temps, la plupart des ménages vont assez mal. Le mélange des conditions dans les mariages ne mérite le nom de mésalliance qu'autant qu'un des époux ne peut adopter la manière de vivre naturelle, accoutumée et comme nécessaire de l'autre. Les différentes classes de la société ont des genres de vie différents qui ne se peuvent ni partager ni confondre, et c'est pourquoi il vaut mieux éviter ces alliances. Mais il peut y avoir des exceptions et de très heureuses. Il en est de même des mariages de jeunes filles et d'hommes âgés. En général, ils sont malheureux, et pourtant j'en ai vu qui ont fort bien tourné. Pour mon compte, je ne verrai d'union mal assortie que celle qui me condamnerait à l'oisiveté et à la représentation. J'aimerais mieux épouser un honnête fermier du voisinage. » Wilhelm songeait à retourner chez Lothair, et il pria sa nouvelle amie de faire en sorte qu'il pût prendre congé de Lydie. Cette jeune fille passionnée se laissa persuader. Il lui adressa quelques paroles affectueuses. Elle fit cette réponse. « J'ai surmonté la première douleur. Lothair me sera toujours cher, mais je connais ses amis. Je suis affligée qu'il soit si mal entouré. L'abbé serait capable de laisser, pour un caprice, les gens dans la détresse, ou même de les y plonger. Le docteur voudrait tout mettre en équilibre. Jarnot n'a point de cœur. Et vous, point de caractère. Poursuivez et faites-vous l'instrument de ces trois hommes. On vous chargera encore de maintes exécutions. Dès longtemps, je le sais fort bien, ma présence leur était importune. Je n'avais pas découvert leur secret, mais j'avais observé qu'ils me cachaient quelque chose. Pourquoi ces chambres fermées, ces mystérieux corridors? Pourquoi personne ne peut-il pénétrer dans la grande tour? Pourquoi me reléguait-il dans ma chambre aussi souvent qu'il pouvait? J'avoue que c'est la jalousie qui m'a conduite à cette découverte. Je craignais qu'une heureuse rivale ne fût cachée quelque part. Maintenant, je ne le crois plus. Je crois à l'amour de Lothair, à ses loyales intentions. Mais je crois aussi qu'il est trompé par ses artificieux et perfides amis. Si vous voulez qu'il vous soit justement redevable et que je vous pardonne vos torts envers moi, délivrez-le des mains de ces hommes. Mais puis-je l'espérer? Remettez-lui cette lettre. Répétez-lui ce qu'elle renferme, que je l'aimerai toujours, que je me fie à ses paroles. « Ah ! » s'écria-t-elle en se jetant tout éplorée au cou de Thérèse. « Il est environné de mes ennemis. Ils chercheront à lui persuader que je ne lui ai rien sacrifié. L'homme, le meilleur, aime à s'entendre dire qu'il est digne de tous les sacrifices, sans être obligé à la reconnaissance. » Les adieux de Thérèse furent plus gais. Elle exprima le vœu de revoir bientôt Wilhelm. « Vous me connaissez tout entière, lui dit-elle. Vous m'avez constamment laissé la parole. La prochaine fois, votre devoir sera de me montrer la même sincérité. » Pendant son retour, notre ami eut tout le loisir de rêver à cette nouvelle et radieuse apparition. Quelle confiance elle lui avait inspirée! Il songeait comme Mignon et Félix seraient heureux sous une telle surveillance. Puis il songeait à lui-même, et il sentait quel délice on goûterait à vivre auprès d'une femme si naturelle et si pure. Comme il approchait du château, la tour avec les nombreuses galeries et les bâtiments accessoires le frappèrent plus qu'auparavant, et il résolut d'entamer ce sujet avec Jarnot ou l'abbé à la première occasion. Chapitre 7. Wilhelm trouva Lothair en pleine convalescence.
Le médecin et l'abbé étaient absents. Jarnot seul était resté. Au bout de peu de temps, le malade put sortir à cheval, tantôt seul, tantôt avec ses amis. Son langage était sérieux et doux, sa conversation instructive et charmante. On y remarquait souvent les traces d'une douce sensibilité qu'il cherchait à dissimuler, et lorsqu'elle se montrait malgré lui, il semblait presque la condamner. Un soir, à souper, il gardait le silence, mais son visage était serein. « Vous avez eu sans doute une aventure aujourd'hui, » lui dit Jarnot, « et une aventure agréable. »«
Comme vous connaissez votre monde, » répondit Lothaire.
« Oui, il m'est arrivé une aventure très agréable. Dans un autre temps, peut-être ne m'aurait-elle pas semblé aussi charmante qu'aujourd'hui, qu'elle m'a trouvé si facile à émouvoir. Vers le soir, je suivais à cheval, sur l'autre bord de la rive, à travers les villages, un chemin que j'avais souvent fréquenté dans mes jeunes années. Mes souffrances m'ont sans doute plus affaibli que je ne croyais. Je me sentais attendrie, et mes forces renaissantes me rendaient comme une nouvelle vie. Tous les objets m'apparaissaient dans la même lumière où je les avais vus durant ma jeunesse, tous aussi aimables, aussi charmants, aussi gracieux, et comme ils ne m'ont pas apparu depuis longtemps. Je sentais bien que c'était de la faiblesse, mais je m'y abandonnais avec plaisir. Je chevauchais doucement, et je comprenais fort bien que l'on pût aimer une maladie qui nous dispose aux douces émotions. Vous savez peut-être ce qui m'attirait autrefois si souvent dans ce chemin.
« Si mes souvenirs sont fidèles, » répondit Jarnot, « c'était une petite amourette que vous aviez alors avec la fille d'un fermier. »«
Dites une grande passion, » reprit Lothaire, « car nous étions fort épris l'un de l'autre, fort sérieusement, et cela dura même assez longtemps. » Aujourd'hui, tout s'est rencontré par hasard pour me représenter vivement les premiers temps de nos amours. Les petits garçons poursuivaient les papillons dans les prairies, et le feuillage des chênes n'était pas plus avancé que le jour où je la vis pour la première fois. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu Marguerite, car elle s'est mariée fort loin d'ici. Mais j'appris par hasard qu'elle est, depuis quelques semaines, en séjour chez son père avec ses enfants.
Ainsi donc, cette promenade n'était pas tout à fait accidentelle.
Je ne cacherai pas, dit Lothaire, que je désirais la rencontrer. Quand je fus à quelque distance de la maison, je vis le père assis devant la porte. Auprès de lui était un enfant de 12 à 15 mois. Comme j'approchais, une femme regarda vivement par la fenêtre, et dans le moment où je m'avançais vers la porte, j'entendis quelqu'un descendre précipitamment l'escalier. Je ne doutais point que ce ne fût elle-même. Je me flattais, je l'avoue, qu'elle m'avait reconnue et qu'elle accourait au-devant de moi. Mais quelle ne fut pas ma confusion lorsqu'elle s'élança de la porte, prit dans ses bras l'enfant, dont les chevaux s'étaient approchés, et l'emporta dans la maison. Je sentis une impression pénible, et ce fut pour ma vanité un faible dédommagement d'apercevoir, à ce qu'il me sembla, un assez vif incarnat sur son cou et ses oreilles, tandis qu'elle s'enfuyait. Je m'arrêtai à causer avec le père, et je lorgnai les fenêtres, espérant qu'elle se montrerait ici ou là, mais je ne pus l'apercevoir. Je ne voulus pas non plus demander de ses nouvelles, et je passai mon chemin. Mon chagrin était un peu adouci par l'admiration. En effet, bien que j'eusse à peine entrevu son visage, elle ne me parut presque pas changée. Et pourtant, 10 années sont longues. Même, elle me parut plus jeune, aussi svelte, sa démarche aussi légère, le cou plus gracieux encore, les joues aussi aisément colorées d'une aimable rougeur. Avec cela, mère de 6 enfants peut-être. Cette apparition cadrait si bien avec tout ce monde magique dont j'étais entourée que je poursuivis toujours plus agréablement ma promenade avec les sensations de ma jeunesse et ne tournai bride qu'à l'entrée de la forêt prochaine, au coucher du soleil. Si vivement que la rosée qui tombait me rappela les avis du médecin. Et quoiqu'il eût été plus sage de retourner chez moi par le plus court chemin, je repris celui de la ferme. J'aperçus une femme qui allait et venait dans le jardin, fermée par une haie légère. Je m'approchai par le sentier et je me trouvai assez près de la personne qui m'attirait. Bien que le soleil couchant me donnât dans les yeux, je vis qu'elle était occupée auprès de la haie, qui ne la couvrait que légèrement. Je crus reconnaître mon ancienne amante. Quand je fus près d'elle, je m'arrêtai et sentais battre mon cœur. Quelques branches d'églantier, balancées par un léger vent, m'empêchaient de distinguer nettement sa tournure. Je lui adressai la parole et lui demandai comment elle se portait. « Fort bien, » me répondit-elle à demi-voix. Cependant, je remarquai derrière la haie un enfant occupé à cueillir des fleurs, et j'en pris occasion de lui demander où donc étaient ses autres enfants. « Ce n'est pas mon enfant, » répondit-elle. « Ce serait un peu vite. » À ce moment, elle se plaça de manière que je pus voir distinctement son visage à travers les rameaux, et je ne sus que penser à cette vue. C'était ma bien-aimée, et ce n'était pas elle. Plus jeune, plus belle peut-être, que je ne l'avais connue 10 années auparavant. « N'êtes-vous pas la fille du fermier ?» lui dis-je un peu troublée. « Non, » dit-elle, « je suis sa nièce. » « Mais, » lui dis-je, « vous lui ressemblez d'une manière extraordinaire. » « C'est ce que disent tous ceux qui l'ont connue il y a 10 ans. » Je lui fis encore diverses questions. Mon erreur m'était agréable, bien que je l'eusse d'abord découverte. Je ne pouvais m'arracher à l'image vivante de ma félicité passée que j'avais devant mes yeux. Sur l'entrefaite, l'enfant s'était éloigné et il s'était dirigé vers l'étang pour chercher des fleurs. Elle me salua et courut après lui. Cependant, j'avais appris que Marguerite était en effet chez son père, et chemin faisant, je n'ai cessé de me demander si c'était elle-même ou la nièce qui avait enlevé l'enfant de devant les chevaux. J'ai repassé plusieurs fois toute l'histoire dans ma pensée, et je ne sache pas que chose au monde ait jamais fait sur moi une impression plus agréable. Mais je le sens bien, je suis encore malade, et nous prierons le docteur de nous faire passer ce reste d'émotion. Il en est des confidences d'amourettes comme des histoires de revenants. Il suffit d'en raconter une pour que les autres viennent d'elles-mêmes à la file. Nos amis trouvèrent dans leurs souvenirs maints récits de ce genre. Ce fut Lothaire qui eut le plus de choses à raconter. Les histoires de Jarno avaient le cachet de son esprit, et nous savons déjà quels aveux Wilhelm eut à faire. Il craignait qu'on ne lui rappelât son aventure avec la comtesse, mais ni l'un ni l'autre n'y touchèrent même de loin. « Il n'est pas au monde de sensations plus agréables, » disait Lothaire, « que d'ouvrir son cœur à un nouvel amour, après une longue indifférence. Et pourtant j'aurais renoncé pour la vie à ce bonheur, si le destin m'avait permis de m'unir à Thérèse. On n'est pas toujours jeune, et l'on ne devrait pas être toujours enfant. L'homme qui connaît le monde, qui sait la tâche qu'il y doit remplir et ce qu'il peut espérer des autres, que peut-il désirer de mieux que de trouver une compagne qui le seconde en tout, qui sache tout préparer pour lui, dont la vigilance se charge des détails, que la nôtre est forcée de négliger, dont l'activité se déploie de toutes parts, tandis que la nôtre peut se porter en avant. Quel paradis j'avais rêvé avec Thérèse! Non pas le paradis d'une félicité romanesque, mais d'une vie sûre et pratique. L'ordre dans le bonheur, le courage dans l'adversité, le soin des plus petites choses, et une âme capable d'embrasser les plus grandes et d'y renoncer. Ah, je voyais chez elle ces talents dont nous admirons le développement dans les femmes que l'histoire nous fait connaître, qui nous paraissent de beaucoup supérieurs à tous les hommes. Cette intelligence de la situation, cette adresse dans toutes les circonstances, cette sûreté dans les détails, qui est d'un si heureux effet pour l'ensemble, et qu'elle déploie sans paraître jamais y songer. À
ces mots, Lothaire, s'adressant à Wilhelm, lui dit avec un sourire « Vous me pardonnez, je l'espère, d'avoir oublié Aurélie pour Thérèse. Avec l'une, je pouvais espérer une vie de bonheur. Avec l'autre, il ne fallait pas attendre une heure de repos. » « Je ne vous tairai pas, répondit Wilhelm, que je venais ici le cœur ulcéré contre vous et que je m'étais promis de blâmer sévèrement votre conduite avec Aurélie. »
« Ma conduite fut blâmable, repartit Lothaire. Je n'aurais pas dû passer auprès d'elle de l'amitié à l'amour. Je n'aurais pas dû, à la place de l'estime qu'elle méritait, provoquer une inclination qu'elle ne pouvait éveiller ni entretenir. Ah, elle n'était pas aimable quand elle aimait, et c'est le plus grand malheur qui puisse arriver à une femme.
« Soit, reprit Wilhelm, nous ne pouvons pas toujours éviter les actions blâmables. Nous ne pouvons pas éviter que nos sentiments et nos actions ne soient singulièrement détournés de leur direction juste et naturelle. Mais il est certain de voir que nous ne devons jamais perdre de vue. Que la cendre de notre amie repose doucement. Sans nous quereller et la condamner, jetons avec pitié des fleurs sur sa tombe. Mais auprès de la tombe où sommeille la malheureuse mère, permettez-moi de vous demander pourquoi vous ne prenez pas soin de l'enfant, d'un fils dans lequel tout homme mettrait sa joie et que vous semblez négliger complètement. Avec votre sensibilité si tendre et si pure, comment pouvez-vous oublier entièrement l'amour paternel ? Vous n'avez pas dit encore un seul mot de la précieuse créature dont les grâces fourniraient matière à tant de récits.
« De qui parlez-vous ? Je ne vous comprends pas. »
« Eh ! De qui, si ce n'est de votre fils ? Du fils d'Aurélie ? De ce bel enfant, au bonheur duquel il ne manque rien qu'un tendre père qui veuille s'intéresser à lui. »
« Vous êtes dans une erreur complète, mon ami !» s'écria Lothaire.
« Aurélie n'avait point de fils, et surtout point de fils de moi. Je ne sais rien d'aucun enfant, autrement je m'en serais chargé avec joie. Mais je n'en veux pas moins considérer la petite créature comme un héritage de mon ami et prendre soin de son éducation. A-t-elle cependant fait jamais entendre qu'elle en fut la mère et qu'il m'appartint ?
Autant qu'il me souvienne, je ne lui ai rien ouï dire de formel, mais chacun le croyait, et je n'en ai pas douté un moment.
« Je pourrais, dit Jarnot, vous donner là-dessus quelques éclaircissements. Une vieille femme, que vous devez avoir vue souvent, apporta l'enfant à Aurélie. Elle l'accueillit avec passion, espérant que cet objet apaiserait sa douleur. Et en effet, il lui a procuré quelques heureux moments. »
Cette découverte avait rendu Wilhelm très inquiet. Ses pensées se reportèrent vivement sur la bonne Mignon et sur le beau Félix. Il laissa voir qu'il désirait sortir ses deux enfants de la position dans laquelle ils se trouvaient.
« C'est bien facile, dit Lothaire. Nous remettrons à Thérèse la singulière petite fille. Elle ne saurait tomber en de meilleures mains. Pour le petit garçon, vous ferez bien, je pense, de le garder auprès de vous. Car si les femmes elles-mêmes laissent en nous quelque chose d'imparfait, les enfants achèvent de nous former quand nous leur donnons des soins.
Et surtout, je suis d'avis, ajouta Jarnot, que vous renonciez une bonne fois au théâtre, pour lequel vous n'avez d'ailleurs aucun talent.
Wilhelm parut saisi. Il eut besoin de se remettre, car le rude langage de Jarnot avait sensiblement blessé sa vanité.
« Si vous pouvez m'en convaincre, répondit-il avec un sourire forcé, vous m'obligerez. C'est pourtant un triste service à rendre aux gens que de les arracher à leurs plus doux songes. »
« Sans en dire davantage sur ce sujet, reprit Jarnot, je voudrais vous décider à nous amener d'abord les enfants. Le reste ira de soi-même. »
« Me voilà prêt, dit Wilhelm. « Je suis inquiet et impatient de savoir si je ne pourrais découvrir quelque chose de plus sur le sort de l'enfant. Il me tarde de revoir la petite fille qui m'a voué une si singulière affection. » Il fut convenu que Wilhelm partirait sans retard. Le lendemain, il avait fait ses préparatifs, le cheval était sellé, et il n'avait plus qu'à prendre congé de l'auteur. C'était l'heure du repas, on se mit à table, comme de coutume, sans attendre le maître. Il revint fort tard, et prit place auprès de ses amis. « Je gagerais, dit Jarno, que vous avez mis encore aujourd'hui votre cœur sensible à l'épreuve. Vous n'avez pu résister au désir de revoir votre Marguerite. » Vous avez deviné, répondit Lothaire. Dites-nous comment les choses se sont passées. Je suis fort curieux de l'apprendre. J'avoue, reprit Lothaire, que l'aventure me tenait au cœur plus que de raison. Je pris donc la résolution de retourner et de voir réellement la personne dont l'image rajeunie m'avait fait une illusion si agréable. Je mis pied à terre à quelque distance de la maison, et je fis conduire les chevaux à l'écart pour ne pas troubler les enfants qui jouaient devant la porte. J'entrai dans la maison, et par hasard, Marguerite vint au-devant de moi, car c'était elle-même. Je la reconnus, quoique fort changée. Elle était devenue plus forte et paraissait plus grande. Sa grâce brillait à travers un tranquille maintien, et sa gaieté avait fait place à une paisible gravité. Sa tête, qu'autrefois elle portait si légèrement, était un peu inclinée, et des rides légères se dessinaient sur son front. Elle baissa les yeux à ma vue, mais aucune rougeur n'annonça une secrète émotion. Je lui tendis la main, elle me donna la sienne. Je lui demandai des nouvelles de son mari, il était absent. De ses enfants, elle s'avança vers la porte et les appela. Ils vinrent tous et se groupèrent autour d'elle. Il n'est rien de plus charmant qu'une mère portant un enfant sur son bras, rien de plus vénérable qu'une mère entourée de nombreux enfants. Je demandai les noms de la petite famille pour dire quelque chose. Elle me pria d'entrer et d'attendre son père. J'acceptai. Elle me conduisit dans la chambre où je retrouvai presque tout à l'ancienne place, et, chose singulière, la belle cousine, sa vivante image, était assise sur l'escabelle, derrière la quenouille, dans la même attitude où j'avais trouvé si souvent ma bien-aimée. Une petite fille, qui ressemblait parfaitement à sa mère, nous avait suivis, et je me trouvais ainsi dans la plus singulière société, entre le passé et l'avenir, comme en un bosquet d'orangers, où l'on voit, dans un étroit espace, des fleurs et des fruits à divers degrés, près les uns des autres. La cousine sortit pour aller chercher quelques rafraîchissements. Je présentai la main à cette femme, autrefois tant aimée, et je lui dis « C'est une grande joie pour moi de vous revoir. »« Vous êtes bien bon de me le dire, » répondit-elle, « mais je puis vous assurer que je sens aussi une joie inexprimable. » Bien souvent, j'ai souhaité de vous revoir encore une fois dans ma vie. Je l'ai souhaité en des moments que je croyais les derniers. Elle me disait ces mots d'une voix calme, sans trouble, avec ce naturel qui me charmait autrefois en elle. La cousine revint, le père la suivit, et je vous laisse à penser avec quel sentiment je restais, avec quel sentiment je partis.